Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Qui n'a jamais eu envie d'envoyer une lettre d'injure à son fournisseur d'accès à Internet? Qui n'a jamais eu envie même d'en venir aux mains? Oui, une colère bien saine, bien salutaire, lorsqu'on se retrouve face à sa Livebox qui tombe en rade pour la 10e fois, lorsqu'on est privé de téléphone et de télévision plusieurs jours d'affilée, et que bien sûr, on doit continuer à payer son abonnement tous les mois. C'est Kafka et Ubu au pays du haut débit. Pas facile, hein? Comme c'est écrit ce mois-ci dans le magazine 60 millions de consommateurs. Une enquête qui sort aujourd'hui même et dont nous parlons ce matin. C'est à se demander si les opérateurs d'Internet ne sont pas totalement dépassés par leur technologie. Un autre élément également à prendre en compte ce matin, les consommateurs, semble-t-il, ont changé. Ils sont bien décidés à ne pas se laisser faire et à ne plus laisser passer toutes ces défaillances techniques et ces abus commerciaux.
Je prends connaissance de votre courrier par lequel vous faites part de difficultés évoquées. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner suite. Nous vous invitons donc à nous contacter directement, notre assistance technique par téléphone ou gratuitement par mail, alors que vous n'avez plus de mail. Moi, je suis obligé de passer par un espace cyber.
Extrait d'un témoignage d'un internaute mécontent. On l'entendra dans un petit instant. Le temps pour moi de vous donner le numéro du standard de service public 01 45 24 7000. Et depuis ce matin, vous êtes fort nombreux déjà à nous envoyer des mails, des courriers, des appels, etc. pour exprimer votre mécontentement. La question du jour, vous le comprendrez, est très simple. Êtes-vous satisfait, oui ou non, des services proposés par votre fournisseur d'accès à Internet? Quels problèmes rencontrez-vous en général? Nous en parlons avec justement 60 millions de consommateurs, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Durier, vous êtes l'auteur d'une grosse enquête qui sort ce mois-ci en couverture. Le ras-le-bol des internautes, c'est peut-être la première information que vous voulez faire passer. Les consommateurs ont changé, ils sont décidés, comme je le disais, à ne plus rien laisser passer.
À ne plus se laisser faire, effectivement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de clients qui laissaient faire leur opérateur quand ils n'étaient pas à la hauteur. Et de plus en plus, les gens se défendent à juste titre. Ça veut dire qu'ils n'acceptent plus de payer pour une connexion qui ne fonctionne pas, ce qui est parfaitement normal.
Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que ça fonctionne un peu mieux qu'il y a un ou deux ans? Là encore, réponse dans un petit instant, notamment grâce à Daniel Fava. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des fournisseurs d'accès et de services Internet. J'espère que vous êtes blindé, prêt ce matin à jouer le rôle du grand méchant.
Oui, j'ai mis mon armure. Tout
vous avez
bien.
L'habitude. Christine Nou, vous êtes également notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'association SOS Internaute, une association qui a pour but justement de favoriser cet Internet de qualité pour tous. Vous nous direz si c'est possible ou pas, est-ce que c'est une utopie? En tout cas, c'est le souhait de tous, le souhait de tout le monde. Vous proposez une aide à la fois technique et juridique, notamment par le biais de vos forums sur Internet. Alors effectivement, quand on est en panne d'Internet, on peut également vous joindre par téléphone. C'est un peu un rôle de hotline bis, non, que vous jouez?
Tout à fait, on joue actuellement le rôle de l'hotline bis et on aimerait que ça cesse. Donc on essaye de motiver tous les abonnés qui ont des problèmes avec leur opérateur à déposer plainte pour aboutir que le gouvernement prenne enfin en compte les plaintes des abonnés.
Vous les incitez à déposer plainte. Oui. Pour vous, c'est la meilleure chose à faire.
Oui, si on veut être entendu, je pense que ça va être la meilleure chose puisqu'il n'y a aucune réponse à leur courrier. Les appels sur la hotline sont inefficaces, donc je pense.
Alors avant de passer en revue justement la liste des conseils, des bons réflexes, que faut-il faire face à son fournisseur d'accès à Internet quand ça ne marche pas? Avant d'aborder aussi la longue liste des problèmes, et puis la liste, elle existe aussi, plus courte, la liste des choses qui marchent mieux. Je voudrais revenir peut-être avec vous encore, Christine Nou, sur cette idée, l'idée développée au début de l'article de 60 millions de consommateurs, l'idée que les consommateurs ont changé. Vous le constatez aussi?
Tout à fait, les consommateurs ont changé. Les consommateurs ont un ras-le-bol, en fait, de se sentir, on le dit, hein. On est des vaches à lait, on paye sans service.
Est-ce que vous ressentez cette idée d'être prise en otage, même parfois?
Tout à fait, c'est ce qu'on entend beaucoup. Je suis pris en otage par mon fournisseur d'accès. Voilà, on l'entend fréquemment, c'est une phrase qui revient régulièrement.
Et elle revient aussi ce matin au standard de service public. Je vois que les mails et les appels sont déjà nombreux. Je donnerai la parole aux auditeurs dans un tout petit instant. 01 45 24 7000. Démarrons tout de suite par une illustration, un cas malheureusement très classique et trop répandu. Thomas Chauvineau a rencontré un consommateur qui s'estime victime, il est mécontent.
Je crois que j'ai dû arriver une semaine et demie, je crois. J'ai envoyé ma première lettre recommandée. J'ai décidé donc d'interrompre mes virements mensuels. Et j'ai reçu un autre courrier de Free. C'était deux mois après, quoi. qui me proposait de reprendre contact ou par téléphone ou par email, alors que j'avais pas de, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de connexion internet, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Voilà, c'est une lettre qui remonte au 30 octobre. Voilà, nous avons pris connaissance de votre courrier. Voilà, après, hein. Ce que je vous disais, un mois et demi après, je prends connaissance de votre courrier par lequel vous faites part de difficultés évoquées. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner suite. Nous vous invitons donc à nous contacter directement, notre assistance technique, par téléphone ou gratuitement par mail, alors que vous n'avez plus de mail. Moi, je suis obligé de passer par un espace cyber. Là, vous dépensez des sous, c'est pas gratuit le mail dans un espace cyber. Voilà, bon, j'ai dû procéder comme ça.
Du coup, ça veut dire que vous n'avez pas payé Free pendant au moins 2 mois?
J'ai pas payé septembre, octobre, novembre. Et puis, pour le coup, alors, j'ai pas payé décembre, bien sûr.
Mais si vous avez demandé la résiliation.
Oui, tout à fait. Mais on m'a réclamé quand même.
On vous a réclamé de payer alors que vous aviez résilié?
Donc, ce qui se passe après, c'est que le 10 décembre, je reçois une lettre complètement inattendue qui vient d'une société de recouvrement. La société Intrum Justicia, qui me demande les règlements des virements automatiques que j'étais censé donner à Free.
Et vous pouvez la lire, non? Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, la société Free m'a demandé d'intervenir auprès de vous concernant la somme de 71,98 € que vous restez lui devoir. Vous trouverez au verso des informations complémentaires importantes concernant votre dette. Je vous invite à régulariser la situation patati patata. J'attire votre attention sur le fait qu'il est très important que vous procédiez à une régularisation, car à défaut, je serai dans l'obligation de transmettre le dossier à notre cellule judiciaire. Une procédure judiciaire aura pour conséquence d'ajouter des frais de justice importants au moment de votre dette. Au montant de votre dette, pardon. Voilà, dans l'attente de votre règlement. Ce que je déplore, c'est que ça peut très bien s'adresser à des gens faibles, des gens âgés, un jeune couple. C'est vraiment une procédure que je déplore, qui grave, voilà, vis-à-vis de ces gens-là, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une anomalie. J'ai envoyé toutes les photocopies et les justificatifs de mes différents envois, et à ce jour, je n'ai pas de retour.
Voilà, donc comme je disais, un cas extrêmement classique, problème de facturation, problème de résiliation, impossibilité aussi de communiquer directement avec l'opérateur. J'attirerais juste votre attention sur le fait que les fournisseurs d'accès Internet ont recours de plus en plus souvent en ce moment à des sociétés de recouvrement. Benjamin Dourier, c'est un phénomène récent et vous le soulignez dans 60 millions de consommateurs.
C'est malheureusement un phénomène qui prend de l'ampleur et c'est assez inquiétant parce qu'on l'a bien vu dans le témoignage, c'est quelqu'un qui a priori n'a rien à se reprocher, il est victime d'une panne, donc fort légitimement au bout de quelques semaines, quelques tentatives de contact avec l'opérateur, tentatives infructueuses, il a coupé les paiements et il se retrouve à recevoir des courriers menaçants et c'est malheureusement pas un cas isolé parce qu'on en reçoit de plus en plus à 60 millions de consommateurs.
Est-ce que cette pratique est illégale? J'ai sous les yeux d'ailleurs la lettre que ce monsieur a reçue, la société Intrum Justicia, j'imagine que vous connaissez tous, je vois vous hochez la tête, vous connaissez cette société de recouvrement.
Opérateurs.
Voilà, une procédure judiciaire aura pour conséquence d'ajouter des frais de justice importants au montant de votre dette. Le courrier est assez menaçant. Illégal ou pas?
Il faut savoir que ces courriers sont d'abord faits pour faire peur. C'est leur premier but, faire peur à la personne qui les reçoit pour qu'elle paye ce qu'on lui réclame.
Il ne faut pas forcément croire tout ce qui est écrit dans cette lettre.
Voilà, il ne peut pas y avoir de frais supplémentaires qui soient réclamés à l'internaute tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice. Donc cette société ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas eu une décision de justice. C'est assez peu probable que cette société qui est mandatée par l'opérateur, en l'occurrence c'est Free, déclenche une procédure judiciaire pour récupérer 71 €. C'est assez peu probable, d'autant que dans le fond, cet internaute est parfaitement dans son droit.
Donc finalement, on peut dire que quand on reçoit ce type de courrier, il ne faut pas paniquer.
Alors, surtout,
ces lettres sont
ne pas
quasi
paniquer.
Mensongères.
Par contre, ne pas faire le mort non plus, ça veut dire répondre à la société, c'est quand même la moindre des choses, et lui dire simplement qu'on conteste la dette et qu'on a tenté à de multiples reprises de contacter l'opérateur de façon infructueuse.
Christine Nouveau, pour SOS Internaute, vous constatez, comme le disait cette personne dans le témoignage, qu'il existe des personnes peut-être plus fragiles, moins aptes à se défendre, ou des personnes âgées qui paniquent lorsqu'elles reçoivent ce type de courrier?
Tout à fait, surtout les personnes âgées. Moi, j'en ai rencontré parce que je me déplace chez elles, même les rencontrer, sont paniquées, ne comprennent rien. Donc, je leur dis, moi aussi, pareil, de ne pas avoir peur du courrier, que c'est une menace et qu'ils n'ont pas à avoir peur parce que ce service de recouvrement appelle aussi les gens par téléphone et avec insistance, en fait. Donc, les gens gens à son peur, ses peurs. Il arrive même que les dossiers soient réglés et que les gens reçoivent toujours des lettres de ce service de recouvrement. Alors on dit à la personne appelle en disant que son dossier est réglé, oui. Et ce service de recouvrement dit bah, envoyez des lettres. Donc on se retrouve toujours dans le contexte renvoyer des lettres, recommander.
On passe beaucoup de temps à la poste, hein, voilà. Avec les lettres en voilà. Accusé de réception. Daniel Fava, je rappelle que vous représentez ici les fournisseurs d'accès à Internet. Pourquoi avoir recours à ce type de société menaçante?
Alors, menaçante, c'est un autre point. Pourquoi avoir recours à ces sociétés de recouvrement? Simplement parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 15 millions d'abonnés au haut débit en France. Donc, ce sont des volumes importants. Et dans ces 15 millions, il y a forcément des gens qui sont de bonne foi, comme le précédent consommateur, qui, à juste titre, certainement, a un problème avec son FAI et donc souhaite arrêter son prélèvement. Par contre, il y a aussi des gens de mauvaise foi, comme partout. Et il est évident que pour ces gens-là, il nous faut, au niveau des FAI, nous doter des moyens de recouvrir les sommes qui nous sont dues.
FAI, voilà. Fournisseur d'accès à Internet.
Exactement.
Je voudrais qu'on prenne le témoignage de Laurent, qui habite à Aix-en-Provence, qui vient de nous appeler. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Vous soulignez à juste titre que nous avions fait déjà un certain nombre d'émissions sur ce thème, sur les défaillances des fournisseurs d'accès à Internet. Et oui. la plus récente, vous l'aviez écoutée? Vous aviez un avis à donner?
Oui, d'ailleurs, je voudrais vous remercier pour vos émissions. Je l'avais écoutée et c'est ce qui m'a... Moi, j'ai eu des soucis avec Free pour un déménagement. Et donc, suite à votre émission, un intervenant conseillait d'aller voir le juge de proximité, ce que j'ai fait en septembre 2007. J'ai eu une audience le 3 décembre qui a été repoussée. Là, je suis passé au tribunal le 11. Et en fait, le tribunal m'a donné raison contre la société Free. Donc, évidemment, il y a peut-être un appel qui va arriver. Mais en tout cas, ce que je voulais dire à tous les éditeurs qui ont des problèmes, c'est que en fait, les gens qui réagissent comme moi et comme d'autres, nous sommes la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire, on doit être 5 à 10%. Parce que tout le monde se décourage. Et en fait, là, moi, ça ne m'a rien coûté. Je me suis défendu tout seul.
C'est marrant, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des frais de justice?
Non. Alors, les frais de justice, il n'y a pas de frais de justice. Je me suis défendu tout seul. Il faut savoir que vous pouvez passer au juge de proximité si vous demandez des dommages et intérêts inférieurs à 3 500 €.
Hein. Ouais.
4 000, nous dit Benjamin Derier pour 60 millions. Votre témoignage est important, Laurent. C'est vrai parce que vous l'avez dit, tout le monde hésite un peu à aller voir un juge de proximité. Et finalement, c'est quand même la bonne chose à faire. Et Laurent, vous êtes là pour en témoigner. Ça a porté ses fruits.
Bah, ça a porté ses fruits, sauf que à partir du moment où Free a vu que je baissais pas les bras et que je les assignais vraiment au tribunal, ils m'ont coupé l'accès à mon compte Internet. C'est-à-dire par Free.com, je peux accéder, imprimer mes factures. Que je fais parce que je l'utilise à titre professionnel et je peux regarder les messages que j'ai dans ma Freebox qui est aussi un répondeur téléphonique. Depuis lors, je n'ai plus du tout accès et aujourd'hui le jugement du tribunal a été rendu. Je n'ai toujours pas d'accès, ça a été coupé. Et ça, Free ne le rétablit pas.
Ouais, merci.
Donc, excusez-moi, juste pour terminer, j'avais fait constater par un huissier cet état de fait, le fait que j'ai pu accès à un service que je paye, et le tribunal a jugé bon de me faire rembourser des frais d'huissier. Voilà.
Merci Laurent. Donc on va à nouveau pendant cette heure d'émission inciter les auditeurs qui ont des problèmes à aller voir le juge de proximité. Daniel Fava, quand vous entendez ce témoignage de Laurent qui a visiblement donc ce problème avec Free, comment vous expliquez la position de Free dans ce cas-là?
Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que avant d'aller auprès du juge de proximité, il y a quand même des niveaux d'escalade qui sont en place, donc auprès des fournisseurs d'accès. Donc il y a un premier niveau qui est le service client, la hotline que tout le monde connaît, qui marche de mieux en mieux, parfois qui a encore des difficultés. Ensuite, il y a un deuxième niveau, si on n'est pas satisfait, qui s'appelle le service client consommateur, donc chez tous les fournisseurs d'accès, qui permet d'offrir un premier niveau de réponse sur des cas critiques ou des solutions qui ont été proposées par la hotline et qui ne satisfont pas les consommateurs. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est le niveau médiateur, là aussi, qui peut être aussi bien interne ou externe aux fournisseurs d'accès, donc qui est quand même où il y a un gage de déontologie et de transparence, et là aussi qui permet de résoudre un certain nombre de cas.
En même temps, là encore, vous le voyez, c'est un consommateur internaute de bonne foi. Comment vous expliquez qu'on en arrive justement à des procédures judiciaires? C'est quand même pas normal.
Alors, il faudrait reprendre tous les cas. C'est vrai qu'on est à la fois sur des technologies qui sont complexes. On disait tout à l'heure 15 millions d'internautes au débit en France. On peut aussi dire que plus de 5 millions d'internautes aux offres triple play, qui sont celles qui combinent l'internet, la téléphonie et la télé, sur 12 millions dans le monde, je crois. Donc, plus de la moitié de ces internautes sont en France. Et forcément, la technologie reste complexe. Donc
oui,
admettez
tout de même qu'on a quand même un peu l'impression qu'on arrive très vite au bras de fer. Est-ce que vos services clients ne sont pas un peu dépassés? Christine Nouveau et Benjamin Derrier, quel constat vous faites par rapport à d'autres secteurs peut-être de l'économie et de l'industrie? Est-ce que leurs services clients et consommateurs ne sont pas un peu en panne tout de même?
Ou
peut-être pas assez modernes?
C'est vrai que dans certains services, on a l'impression que c'est un petit peu la pagaille quand on voit les témoignages de consommateurs qui nous parviennent. Il y a des abonnés qui, par exemple, demandent la résiliation, prennent bien la peine d'envoyer la lettre en recommandé, ont l'avis de réception qui prouve que la lettre a bien été reçue, et la résiliation n'est pas enregistrée. Donc ça prouve bien qu'il y a un défaut d'organisation dans certains services clients.
Vous pensez qu'à l'avenir, les sociétés d'Internet vont faire un effort, vont peut-être investir sur ces services clients?
Non, mais je crois qu'elles l'ont déjà fait. Enfin, après, cet effort doit continuer, évidemment.
Christine Nouveau n'a pas l'air d'accord avec vous. Hein.
Ça me semble normal. Mais après, il faudrait regarder un petit peu les chiffres avec précision. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de problèmes. Il y a toujours des problèmes. C'est vrai aussi qu'il y a, sur l'année 2007, il y a eu 4 millions d'internautes qui ont changé soit de FAI, soit qui sont venus au débit pour la première fois. Et si on comptabilise les plaintes de la DGCRF sur toute l'année, je crois qu'on est à peu près à 35 000, y compris sur des problématiques de téléphonie mobile.
C'est beaucoup, hein?
Donc, 35 000 sur 4 millions d'utilisateurs qui ont changé et 15 millions d'utilisateurs au débit.
Mais on l'a entendu par la voix de Laurent. C'est vrai que les gens n'osent pas toujours aller jusqu'à la répression des fraudes. Alors, puisqu'on parle justement des plaintes, venons-en peut-être à...
Sur les chiffres, parce que c'est toujours facile de minimiser le nombre de plaintes, mais je vais vous poser une question. Combien il y a d'automobilistes en France? Il y en a sans doute 35-40 millions. On reçoit facilement 10 fois moins de plaintes concernant les voitures, les garagistes, que concernant les fournisseurs d'accès Internet. Donc, la minimisation par rapport au nombre d'abonnés ne me paraît pas un argument recevable.
Et on pourrait ajouter donc là encore les chiffres fournis par le gouvernement, par Luc Chatel, lors de sa dernière conférence de presse, sur le baromètre des plaintes des consommateurs. Le secteur de la téléphonie mobile et d'Internet arrivait en numéro 1, en tête du nombre de plaintes.
Oui,
pratiquement 30% des plaintes des consommateurs sont concentrées justement sur ce secteur.
C'est vrai, je pense qu'il faudrait analyser en détail, mais c'est vrai que les technologies employées et la vitesse à laquelle l'adoption s'est faite au niveau du grand public est certainement un élément important du nombre de plaintes, et également l'organisation du côté des FAI, qui sont pour la plupart des jeunes entreprises, hein, puisque la possibilité de concurrence est France Télécom date depuis 10 ans. Certains FAI sont créés il y a 3-4 ans avec des niveaux de croissance très importants. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, même si des efforts au niveau des hotlines, au niveau des résolutions d'incidents ont été réalisés, notamment l'année dernière.
Benjamin Derrier, est-ce que si on comptabilise toutes ces plaintes, est-ce qu'il est possible de dire si certaines sociétés concentrent le maximum de plaintes? On a l'impression quand même que des sociétés comme 9CGTEL et Free reviennent très souvent dans le palmarès des sociétés défaillantes.
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que nous, ce qu'on voit dans le courrier à 60 millions de consommateurs, c'est qu'il y a tous les opérateurs. Il n'y en a aucun qui n'est pas cité dans le courrier, donc on reçoit des plaintes concernant tout le monde.
Même après, France Télécom.
Parfaitement, concernant Orange, même un certain nombre de pratiques dont on pensait que France Télécom, l'ancien service public, ne se rendrait pas coupable, qui sont aujourd'hui pratiquées. Il y a un certain nombre de ventes forcées, des gens qui se retrouvent abonnés chez Orange sans avoir rien demandé.
Donc vous mettez tout le monde dans le même panier.
En tout cas, il y a aucun opérateur qui assure une qualité de service suffisante à tous ses clients. Maintenant, établir une hiérarchie, c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il suffit pas de dénombrer le nombre de plaintes reçues. Il faudrait aussi prendre en compte le nombre d'abonnés de chaque opérateur. Vous citiez 9CGTEL et Free, c'est respectivement les numéros 2 et numéro 3 du haut débit en France. Donc, c'est logique qu'il y ait un peu plus de plaintes. pour ces opérateurs que pour des opérateurs plus petits.
C'est votre avis aussi, Christine Nouveau, pour SOS Internaute? Il n'y a pas encore de liste noire
Non, il n'y a pas de liste noire. Il y a tous les opérateurs confondus. On a des plaintes de tous les fournisseurs d'accès, en fait.
Voilà, donc tout le monde dans le même panier. Le quotidien Le Parisien publiait récemment le top 10 des plaintes des internautes. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent? Numéro 1, coupure de ligne, interruption de service, donc plus de ligne Internet. Numéro 2, défaut de service dans la résiliation de contrat. Numéro 3, la connexion impossible. Numéro 4, la vente forcée. On y reviendra dans un petit instant, c'est un vrai problème. Et par la suite, donc pas mal d'erreurs de facturation, etc. Je ne vous cache pas qu'au standard de service public, pas mal d'auditeurs, internautes semblent avoir rencontré l'ensemble de ces problèmes pour certains d'entre eux, comme par exemple Régis qui nous dit, voilà, moi je crois que j'ai rencontré tous les cas de figure avec Numéricable, à la fois la surfacturation, des dysfonctionnements divers, le non-respect des obligations légales. Donc nous passons en revue, vous l'avez compris, tous ces problèmes ce matin avec 60 millions de consommateurs et avec vous les auditeurs. On démarre avec Farida. Bonjour, je vous écoute.
Bonjour. Alors voilà, moi j'ai un gros problème avec Orange et France Télécom. Mmh. J'ai pris un abonnement avec la Livebox en avril 2006. Je n'ai jamais été satisfaite et jusqu'à ce jour, je suis passée par les trois niveaux, par les trois paliers dont parlait votre la personne qui est avec vous. Donc j'ai contacté le service assistance de 3900 qui m'a coûté très cher, puisque chacun des techniciens que j'ai eu au téléphone me renvoyait un autre en me disant que c'était pas de son domaine. J'ai contacté le service client à Bordeaux. Et là, dernièrement, j'en suis arrivée à envoyer des mails en disant que j'allais contacter le médiateur de la République pour les problèmes que j'ai. Alors moi, on me facture...
Ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein. On lui a donné la parole hier. Oui.
C'est pas le médiateur de la République qu'il faut contacter.
Le médiateur
spécifique,
d'Internet.
Le médiateur des communications électroniques.
Raymond Viricel. Voilà. Donc.
Bon, très bien. Écoutez, là, ce qui se passe, c'est qu'on me prélève tous les mois la somme en moyenne de 90 euros. Alors que mon abonnement au départ est de 29,90 €. On m'impute des achats de services sur Internet que je n'ai jamais effectués. Et voilà, donc...
Un problème de facturation un peu fantaisiste. Alors, Farida, je ne sais pas si ça peut vous aider. Sachez que vous n'êtes pas seule dans ce cas. Benjamin Dourier, dans 60 millions de consommateurs, qui sort aujourd'hui, vous publiez bien sûr votre enquête, mais également à chaque fois des encadrés sur tous les recours possibles, ce qu'il faut faire. Bon conseil, peut-être là, on peut en donner un à Farida.
Alors, effectivement, si elle a déjà contacté le service client par téléphone, si elle a déjà écrit, ça c'est important, si le service client n'a pas réglé le problème, d'écrire en recommandé avec avis de réception.
Si on écrit réponse, et on vous répond pas.
Conservez bien, madame, la trace de votre envoi. Et effectivement, si vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez saisir donc le médiateur des communications électroniques. On donne ses coordonnées dans le magazine. Et donc, lui peut réexaminer le dossier depuis le départ. C'est un médiateur indépendant. Ça devrait pouvoir faire bouger les choses.
Très bien, merci. Oui.
Moi, je peux vous dire que ça fait... Excusez-moi. Ça fait des mois... Je suis désolée, j'ai la grippe.
Oui, allez-y. Toussez un bon coup. Ça fait des mois que ça dure.
Et que ça devient infernal.
Sachez, Farida, hein, c'est le but de cette émission, qu'il y a toujours une solution. Et les internautes, justement, qui décident de porter plainte, ont toujours raison, enfin, quand ils sont dans leur tort, quand ils ne sont pas en tort. Et voilà, sachez qu'il y a toujours une solution optimiste au bout du chemin. Donc, si ça peut vous aider, voilà ce qu'on pourrait vous dire ce matin. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à, effectivement, prendre le taureau par les cornes.
Écoutez, c'est très décourageant. Moi, je crois que s'il y avait un numéro de service public avec plainte, je suis sûre qu'il y aurait une explosion des chiffres.
Une hotline payante, c'est ça? Si on mettait une
non,
payante,
un numéro public...
France Inter deviendrait richissime. Non, je plaisante.
Coup, un numéro public où les gens pourraient dire qu'ils sont victimes, entre guillemets, d'escroquerie. Et moi, je crois que tout le monde n'ose pas engager une procédure. Il y a un système de prélèvement automatique qu'on vous impose qui fait que, de toute façon, vous êtes prélevé sur votre compte, quel que soit le montant. Après, pour qu'on vous rétroverse les sommes, vous pouvez toujours vous accrocher. Moi, je vous dis, ça fait 2 ans. Je n'ai jamais changé de... comment dire... comment on appelle ça? j'ai perdu le nom.
De fournisseurs. Farida, ne restez pas avec ce sentiment d'être prise en otage. Je pense que Christine Nouveau, qui représente SOS Internautes, pourrait vous donner le même conseil. Je vous le redis, hein, vous pouvez effectivement faire entendre votre voix, et si vous êtes dans votre bon droit, vous pouvez vous faire entendre. Il ne faut pas hésiter, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il ne faut pas hésiter justement à saisir à la fois le médiateur ou les différentes instances ou autorités, notamment le juge de proximité, comme on l'a dit. Christine Nouveau, non, vous allez dans mon sens. Il faut pas que les internautes restent dans cette passivité.
Il ne faut pas s'isoler, parce que ce qu'on s'est aperçu il y a quelques mois, enfin il y a un an à peu près, que les gens s'isolaient et pensaient être seuls. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent, je vais vous raconter mon histoire, je suis seule, je me sens perdue, on entend beaucoup ça. Donc je dis aux gens, battez-vous, manifestez-vous, et écrivez. Mais c'est vrai que en fait, je pense que tous les fournisseurs joue sur le fait de la lassitude des gens.
Alors, et c'est aussi le conseil qu'on donne régulièrement, hein. Enfin, c'est l'idée, le message qu'on fait passer dans cette émission régulièrement. Le consommateur a un réel pouvoir et il peut utiliser ce pouvoir.
Daniel Favard. Au-delà de ce que disait Benjamin, le fait d'écrire au médiateur des télécoms, on peut aussi conseiller à madame de couper son prélèvement automatique, parce que si elle est indûment prélevée chaque mois, de sommes qui sont plus importantes par rapport à ce qu'elle devrait payer, visiblement, il n'y a pas de raison de se laisser prélever des sommes comme ça. Donc il faut l'expliquer auprès du médiateur, mais qu'elle n'hésite pas à le faire. C'est aussi un moyen de pression important.
Alors oui, voilà, moyen de pression, on peut utiliser tous ces moyens de pression, et ne serait-ce que le fait de faire, comme vous le disiez Benjamin, un courrier où on exprime le souhait justement d'aller vers des instances, d'aller vers,
toujours en lettre recommandée.
Toujours en recommandée, d'aller vers le juge, tout de suite on a l'impression que le fournisseur d'accès à Internet se change d'attitude et se manifeste autrement. Les questions arrivent fort nombreuses au standard, on va peut-être revenir, puisqu'on a beaucoup parlé quand même des relations avec les différents services clients. Revenons peut-être sur cette question très simple, elle est d'actualité, de Claudine à Toulouse. Où en est-on de la loi qui stipulait que le service après-vente Internet devait être gratuit? On en est où?
Alors, plus que 2 mois de patience. Donc la loi a été votée, elle est bien publiée au Journal officiel. Elle s'applique à partir du 1er juin. Donc à partir du 1er juin, les hotlines des opérateurs téléphones, fournisseurs d'accès Internet, devront être non pas gratuites, mais facturées au prix d'un appel normal. Ça va quand même diviser à peu près par 10 le coût de l'appel, généralement. Donc à partir du 1er juin, si les opérateurs sont prêts, ça serait quand même assez malvenu qu'ils ne le soient pas.
Donc ça, c'est une réelle avancée. Ça fait partie des petits plus et des choses qui ont changé depuis l'année dernière, date à laquelle nous avions fait pratiquement le même genre d'émission. Autre question qui revient beaucoup au standard, et elle était également posée d'une certaine manière par le problème de l'auditrice précédente, le problème des prélèvements. Beaucoup d'auditeurs nous demandent, est-ce qu'on doit forcément payer par prélèvement? Est-ce qu'on peut payer d'une autre manière? Nous demande Dominique, est-ce qu'on peut faire uniquement un chèque? Est-ce que c'est peut-être un conseil aussi qu'on peut donner aux internautes?
Alors malheureusement, en théorie, c'est quelque chose qui serait bien que les abonnés puissent payer par chèque. Malheureusement, en pratique, les opérateurs imposent une surtaxe. Généralement, si on paye par chèque, c'est 2 ou 3 euros de plus par mois.
C'est pas normal.
Donc malheureusement, c'est malheureusement des pratiques répandues et qu'on regrette.
C'est une pratique, Daniel Favard, qui pourrait changer à l'avenir ou pas?
Le problème du paiement par chèque, c'est qu'effectivement, il génère beaucoup de coûts de traitement. D'où le fait qu'on soit obligé de surtaxer un peu ce mode de paiement. Bon, généralement, il y a plusieurs, les FAI proposent plusieurs modes de paiement. Quand même, ça peut être la carte bleue, ça peut être le prélèvement automatique, le tip. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de moyens pour arriver à s'acquitter de sa facture. Ensuite, effectivement, le meilleur moyen, quand on n'est pas satisfait et qu'on estime être dans son bon droit, c'est d'écrire en recommandé et de pas hésiter à annuler son prélèvement.
Nous allons continuer de feuilleter le magazine 60 millions de consommateurs et notamment la longue liste, comme je le disais, des problèmes de facture fantaisiste, problèmes de prélèvement, problèmes de résiliation parfois impossibles. Et un nouveau problème sur lequel aussi vous attirez notre attention, Benjamin Dourier. On va peut-être tout de suite passer la parole à Fabienne qui habite à Marseille. Ce nouveau problème, c'est celui du slamming, ce qu'on appelle le slamming. Peut-être que cette auditrice va nous le définir. Bonjour.
Bonjour.
C'est le problème de l'abonnement, en fait, auquel on est abonné sans s'en rendre compte, finalement, sans le vouloir, tout à fait. Est-ce que j'ai donné la bonne définition?
Je crois en fait plutôt c'est une résiliation, à notre insu finalement, puisque moi je suis chez un opérateur depuis 2 ans et tout se passe très bien, je suis ravie de cet opérateur. Et en fait, il y a une dizaine de jours, je n'ai plus de signal. Je suis dans des gros pachotages, je vis au centre de Marseille, et plus de signal, plus de téléphone, plus d'internet. Je laisse passer un jour ou deux en me disant c'est une perte de c'est une panne de réseau, etc. Deux jours après, toujours rien. Et quand je contacte mon opérateur, on me dit non, en fait, on a perdu le signal pour la box qui part de chez vous, et en fait, vous n'existez plus finalement dans nos fichiers. Mmh. Je contacte France Télécom, puisque je ne suis pas chez France Télécom et je dois repasser par eux. Ils me confirment la chose. Et en fait, je reçois un courrier qui m'indique que j'ai été victime d'un slamie, écrasement de ma ligne, c'est-à-dire que votre ligne a été débranchée des équipements de mon opérateur sans votre accord pour être câblée sur les équipements d'un autre opérateur.
Comment est-ce possible, Benjamin Dorier? Restez en ligne, Fabienne.
Alors d'abord, pour donner un terme plus imagé, moi j'appelle ça, c'est du kidnapping de ligne téléphonique. Mm-hmm. Alors, c'est ni plus ni moins que ça. C'est malheureusement possible parce qu'il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place il y a plusieurs années, dès 1999, qui fait que si un opérateur demande à France Télécom de brancher votre ligne, madame, sur son réseau, eh ben France Télécom va s'exécuter sans faire aucune vérification. Il va prendre le fil de votre ligne et le brancher sur le réseau de l'opérateur qui a fait la demande. On le fait ça sans vérification de la signature. C'est une procédure qui a été mise en place pour accélérer les changements d'opérateurs. Donc quand les gens ont bien demandé à être abonnés, ça fonctionne très bien. Malheureusement, le problème, c'est que cette procédure, elle accélère aussi les abus et les ventes forcées dont vous avez été victime.
Et que peut faire Fabienne aujourd'hui?
Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est de savoir qui est l'opérateur fautif. Je ne sais pas si vous le savez déjà, madame.
C'est Alice, non?
Non, pas du tout. Moi, je suis chez Alice et tout se passe très bien chez Alice, même ce qu'on peut dire et entendre un peu partout. Non, en fait, moi, j'étais déjà un petit peu au courant de ce phénomène. Je ricanais parce que ça m'était jamais arrivé, voilà. Donc, en fait, j'ai demandé par courrier que France Télécom et Alice m'envoient le nom de cet opérateur, parce qu'ils doivent faire un certain nombre de recherches. Ils me l'enverront par courrier et à partir de là, je me retourne et j'attaque.
Bien. Alors effectivement, il faut pas hésiter. C'est des pratiques assez graves, hein, puisque vous vous retrouvez sans internet et il me semble sans ligne téléphonique.
Absolument.
Donc effectivement, il faut pas se laisser faire. Il faut exiger le remboursement de tous vos frais auprès de l'opérateur fautif, les frais de lettres recommandées, les frais de hotline, les frais de portable éventuellement si vous avez dû appeler de votre portable parce que vous n'avez plus de téléphone. Il faut absolument pas se laisser faire parce que c'est des pratiques très graves.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Fabienne. Daniel Fava, comment vous réagissez justement quand vous entendez ce problème de kidnapping de lignes téléphoniques?
Oui, alors c'est complexe parce qu'il peut y avoir plusieurs causes à cela. Bon, la première, c'est effectivement des phénomènes de vente forcée, et donc là, effectivement, c'est inadmissible parce qu'elles sont vraiment de mauvaise foi. Et puis il y a d'autres phénomènes plus ou moins techniques qui peuvent venir, par exemple, du fait qu'un abonné ou un consommateur s'abonne à un FAI, la ligne n'arrivant pas, prenant du retard, décide finalement de s'abonner à un autre, et puis finalement l'ordre a déjà été donné au premier de connecter sa ligne, et finalement le deuxième abonnement vient retirer la ligne du premier. Donc il faut toujours regarder quels sont les cas précisément. Je crois que sur les ventes forcées, on est malheureusement dans une économie qui s'y prête bien, dans le sens où il y a une concurrence très forte, hein, ce qui fait qu'aussi les offres de triple play en France aux alentours de 30 euros sont parmi les moins chères d'Europe et du monde. Donc on a une économie qui est favorable à la consommation, et en même temps on est sur un marché qui ralentit légèrement
en même temps
en croissance.
Bon, reconnaissez, ceci n'excuse pas ces pratiques
qui sont illégales.
La question qui sous-tend l'article de 60 millions m'intéresse, c'est de dire, est-ce que finalement vous, les sociétés de fournisseurs d'accès à Internet, vous n'êtes pas totalement dépassés par la technologie? Vous disiez vous-même que il s'agissait de sociétés très jeunes.
Alors c'est pas
vous sentez pas un peu dépassé?
C'est pas une question de technologie dans le cadre du slamming, c'est plutôt une question de processus. Comme le disait tout à l'heure Benjamin, le fait que le gouvernement à un moment donné veuille accélérer la concurrence dans le haut débit, lui a permis de mettre en place à travers l'ARCEP des directives qui font qu'aujourd'hui France Télécom exécute un certain nombre de...
On a l'impression que vous jouez un peu au cow-boy, voilà, pour dire la vérité. Parfois on a l'impression que c'est un peu cela.
De cow-boy dans quel sens?
Dans la manière de pratiquer un certain nombre d'abus commerciaux. On a l'impression que vous dites, voilà, je vais essayer de faire ci et ça, de faire bouger un peu les lignes et voir si ça passe. Parce que vous avez des pratiques qui sont quand même à la limite de la légalité, c'est ça qui est inquiétant.
Ah bah la vente forcée, évidemment,
c'est ça la limite, c'est clairement
hors du champ légal. C'est carrément illégal.
Et on pourrait reprendre l'exemple de l'automobile. C'est vrai que vous êtes une industrie jeune, certes, mais pourquoi vous permettez autant d'abus? C'est ça qui est incroyable, alors que d'autres industries, d'autres fabricants, d'autres industriels n'ont pas ce type de problème, ne rencontrent pas ce type de problème.
Mais je pense que c'est vraiment une question de moment, c'est-à-dire que je pense que les fournisseurs d'accès et les opérateurs ont compris que les années qui venaient de s'écouler et les années qui arrivent sont des années où il y a une forte croissance autour de cette demande. On est sur un produit qui coûte 30 euros, qui peut se vendre très simplement, c'est-à-dire à partir du moment où vous donnez votre numéro de téléphone et un moyen de paiement et que vous signez un contrat qui souvent tient en une page, l'abonnement peut se faire. Contrairement au marché de l'automobile où on parle de sommes beaucoup plus importantes, où il faut se rendre en concession, donc des ventes qui en termes de démarche sont beaucoup
plus
lourdes.
Mais quand on achète une voiture, je prends souvent cet exemple, elle a 4 roues, elle marche, elle fonctionne en général. Bien souvent, malheureusement, quand on s'abonne à Internet, ça ne marche pas.
Mais ça ne marche pas. Alors,
c'est comme si on achetait une voiture avec 3 roues.
Je pense que vous caricaturez un peu. Il y a plus, dans les enquêtes qui sont faites, il y a plus de 80% des internautes qui estiment être satisfaits de leur fournisseur d'accès. Alors effectivement, ça fait 80%, mais on estime toujours que quand il y a 80% de satisfaits dans une industrie, c'est quand même un chiffre intéressant. Après, effectivement, il y a...
Personne ne réagit sur ce chiffre, hein, Christine Nouveau pour SOS Internautes.
Moi, je dis 80%, s'il y avait vraiment 80%, on recevrait pas sur les forums autant de messages, de coups de fil. Nous, on est une petite association et on est débordés. On n'arrive même plus des fois à faire face parce que tous les jours, moi, j'ai des appels de personnes. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont insatisfaits. Même une petite insatisfaction, je veux dire. Hein, c'est pas obligé que ça soit un gros problème rencontré, mais ça peut être une petite insatisfaction. Donc, maintenant, vous dites que c'est pas très cher, mais bon, c'est vrai que l'abonnement de base n'est peut-être pas très cher, mais après, c'est un certain coût avec pour certains fournisseurs.
C'est pas cher par mois, mais c'est un coût après, à l'année, voilà.
Alors, l'idée, c'est pas de minimiser, mais c'est vrai que même 5% de 15 millions, vous voyez bien ce que ça représente. Ça représente plus de 700 000 utilisateurs. Donc, forcément, il y a toujours des cas particuliers. On est encore une fois sur des technologies qui sont pas binaires, c'est-à-dire c'est pas 0, ça marche pas, ou 1, ça marche. On est sur, sans rentrer dans les détails, technique de la perte de cuivre, qui est un support qui a 30 ou 40 ans et qui supporte aujourd'hui des technologies très récentes. Donc il faut aussi tenir compte de ça.
Et... C'est votre défense, c'est votre ligne de défense. On l'écoute et on la comprend. Alors, on a passé en revue depuis le début de l'émission un certain nombre de problèmes réels. Hein. On a parlé des problèmes de résiliation, de facturation, de vente forcée, de kidnapping de lignes téléphoniques. Il y a un autre problème soulevé par un auditeur, je voudrais qu'on lui passe la parole. C'est le problème du préjudice. Parce qu'on peut effectivement se dire, voilà, il y a préjudice. Que faire à ce moment-là? Serge, bonjour, vous habitez à Cannes et vous vouliez intervenir?
Oui, Serge, bonjour.
Bonjour.
J'habite Cannes et je suis bénéficiaire, entre guillemets, d'un service complet avec télévision, téléphone et Internet, plus un graveur de DVD de France Télécom, tout donc avec un abonnement Orange, et ce depuis quelques années. Et depuis 2 mois... j'ai des perturbations, voire donc l'absence totale de télévision depuis 2 mois, et puis d'Internet. Je suis très rapide, faire un constat sur Orange et France Télécom actuellement, tel que je le ressens. Il y a une absence de fiabilité des informations sur la possibilité de bénéficier de la télévision ou non, suivant la distance par rapport aux centrales, et ça, c'est quelque chose qui est pas maîtrisé du tout. Et dans le temps, parce qu'on me dit que les logiciels des boutiques ont 5 ans d'âge par rapport à un trafic qui a énormément augmenté pour le bénéfice de la télévision. Je trouve aussi qu'il y a une complexité des rapports France Télécom et Orange qui est effarante. J'ai l'impression d'une partie de ping-pong entre Orange qui est le FAI et France Télécom qui gère l'entretien des lignes. Moi, vraisemblablement, j'ai un problème de ligne et chacun se rejette le problème.
Et puis, concernant le préjudice, qu'est-ce que vous voulez dire par préjudice? Comment peut-il y avoir préjudice?
J'utilise beaucoup Internet. Le préjudice, pour la télévision, c'est quand on regarde pas un match de l'OM, on en a gros le cœur, alors qu'ils sont souvent retransmis sur Canal+, par exemple, mais ça c'est un préjudice, je dirais, moral. Mais le préjudice, je fais les opérations de banque, de bourse, par Internet. Je commande à des fournisseurs par Internet. J'ai des relations qui sont de plus en plus par mail avec un certain nombre de correspondants. Bien sûr, il y a toutes les factures des différents services, mais c'est sur la notion de préjudice indirect que il me semble que la chose qui m'a été évoquée, mais en fin de course, d'un geste commercial qui me serait donné, ça doit pouvoir être, sinon forfaitisé, tout au moins être apprécié.
Alors, le geste commercial, Daniel Fava, je pense qu'il est fait quand même de temps en temps.
Oui, très généralement, à partir du moment où le FAI constate effectivement qu'il est en défaut, et il y a très souvent des gestes commerciaux qui sont faits, qui sont soit des remboursements, soit des avoirs sur facture à émettre, et je pense que...
Mais alors la notion de préjudice, ça vous semble farfelu, ça, ou pas, Benjamin?
Alors, dans les quelques affaires qui vont jusqu'au tribunal, puisque ça arrive, hein, les consommateurs qui vont au tribunal et qui, dans la plupart des cas d'ailleurs, gagnent, il y a effectivement, généralement, des dommages et intérêts qui sont réclamés par le consommateur et qui sont souvent accordés par le juge.
C'est une information importante.
Alors, bien sûr, c'est pas des dommages et intérêts, il faut pas s'attendre à
quelques centaines d'euros.
Voilà, c'est généralement de l'ordre de quelques centaines d'euros. Simplement, il faut que les demandes de dommages et intérêts, quand ça va jusqu'en justice, si on peut l'éviter, c'est mieux, c'est toujours plus simple. Hein. Les demandes de dommages et intérêts, c'est mieux si elles sont motivées. Si vous avez, avoir raté un match de foot, je ne sais pas trop si un juge va accorder quelque chose.
Si c'est l'OM, je crois que ça peut marcher.
Par contre, si on a, je ne sais pas, un préjudice professionnel ou qu'on a raté quelque chose, si ça peut être justifié par écrit, par des documents, généralement, les juges y sont sensibles.
D'ailleurs, à ce sujet, vous dites dans votre article, c'est très intéressant, parce que bien sûr, ça peut prêter à sourire. Hein, vous parlez du match, la livebox qui tombe en panne, etc. Ça peut prêter à sourire, mais vous dites quelque chose d'important, c'est qu'il y a soit des personnes malades, soit des personnes enceintes de 8-9 mois, etc., qui se trouvent privées de ligne téléphonique pendant plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Et effectivement, là, on peut bien comprendre qu'il puisse y avoir un préjudice.
C'est vrai qu'on a un certain nombre de situations inquiétantes qui n'existaient pas il y a quelques années, qui sont simplement le fait de ce qu'on appelle le dégroupage total. Donc la ligne téléphonique est greffée sur la connexion Internet. Et donc si la connexion Internet ne marche pas, la ligne téléphonique non plus. Et on a aussi un certain nombre de témoignages récents de personnes âgées qui se sont retrouvées plusieurs jours ou plusieurs semaines sans ligne téléphonique. Quand c'est des gens qui ont 75 ou 80 ans, je vous laisse imaginer la gravité que ça peut
prendre. Justement, prenons un dernier témoignage, celui de Lionel. Bonjour.
Oui.
Bonjour Lionel. Vous vouliez attirer peut-être notre attention sur le fait que quand on essaye de résoudre ces problèmes, ces défaillances, le délai est souvent très très long.
Oui, tout à fait. Alors le délai d'une part est long, et puis c'est un petit peu un parcours de combattant pour se faire entendre. Donc moi je suis victime d'un kidnapping de ligne, comme l'a dit votre intervenant. Les premiers recours donc concernent le service clientèle du fournisseur d'accès. Donc là, ça prend de longues minutes au téléphone, bien sûr un numéro qui est surtaxé. Ensuite, sont des lettres recommandées. Donc là, avec le service clientèle, ça prend entre 1 et 2 mois. Ensuite, si on n'est pas satisfait ou si on n'a pas de réponse, on va contacter le service consommateur.
Donc ça peut prendre facilement 2-3 mois avant de voir son service rétabli.
Là, moi j'en suis donc avec le médiateur donc des télécommunications électroniques. Son avis les met environ au bout de 3 mois à peu près, l'instruction dure 3 mois. Le fournisseur d'accès et le consommateur peuvent accepter ou non la proposition du médiateur. Donc cela prend environ 6 mois lorsqu'on a un problème. Et bon, moi je n'ai plus de téléphone. C'est vrai que vivre sans téléphone fixe de nos jours, c'est un petit peu difficile.
Très compliqué. Je suis désolée, Lionel, la ligne est pas très bonne, je suis obligée de vous interrompre. Oui. Une réponse peut-être, et bon, on va redire aussi à Lionel que même si ça vous semble être un parcours du combattant, vous pouvez être aidé, que ce soit par des associations de consommateurs ou SOS internautes, que vous représentez. Christine Nour, en un mot, rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Lionel? Faut pas se décourager. Nous, quand on reste sans téléphone, c'est vrai, pendant de longues semaines, c'est pas facile.
Mais c'est vrai que nous, on demande aux gens de venir sur nos forums, on leur donne une aide avec certains fournisseurs avec qui on a accès sur des numéros spéciaux. On essaye de régler leur dossier avant qu'ils aillent en justice, parce que tout le monde ne veut pas aller en justice. On leur demande surtout de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que c'est un parcours du combattant, que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Et je pense que tous les fournisseurs jouent beaucoup là-dessus, sur vraiment la lassitude des gens. Et voilà. Mais dans les dommages intérêts, moi, je pense que... il faut les demander. Bon, il y a les dommages d'intérêt moraux, parce qu'il y a eu quand même des insultes qui ont été... est mise envers les abonnés. Donc j'estime qu'on doit être dédommagé pour ce qu'on a subi durant ces longs mois. Il n'y a pas que les pannes en fait.
Je voudrais rappeler que sur le site de service public sur franceinter.com, nous avons mis donc les coordonnées du médiateur des communications électroniques, Benjamin Derrier, vous l'avez cité, Raymond Viricel, donc on peut s'adresser à lui, ses coordonnées sont donc sur notre site. Je renvoie encore donc les auditeurs à votre journal, 60 millions de consommateurs, merci beaucoup et merci aussi à vous Christine Nouveau pour SOS Internaute, donc ça fait partie des bons conseils qu'on peut donner, hein. Allez voir ce qui se passe sur vos forums. Et puis une dernière chose aussi, puisqu'on a donné pas mal de conseils dans cette émission, Daniel Fava, je prends un petit peu dans ma voix ce que vous disiez, ne restez pas non plus 6 mois sans téléphone, faites jouer la concurrence et vous pouvez aller voir un autre opérateur, hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait, on a la chance d'avoir une concurrence abondante et des prix qui sont pratiquement semblables pour tous les fournisseurs d'accès, donc faut vraiment pas hésiter.
Merci à vous tous et je propose qu'on fasse à nouveau peut-être cette émission dans quelques mois pour voir avec vous, Daniel Fava, si ça va mieux, si ça marche enfin, un internet de qualité pour tous.